Radio Prague, les informations.
Visite officielle du président palestinien à Prague. Le ministre de l'Intérieur pourrait augmenter son aide aux étrangers licenciés en Tchéquie. Rencontre avant le G20 à Berlin. Le président palestinien Mahmoud Abbas arrive en visite officielle à Prague lundi pour y rencontrer son homologue tchèque Václav Klaus. Cette visite devait avoir lieu le 2 février, mais elle avait été remise en raison de la tenue des entretiens du Caire sur la situation tendue au Proche-Orient. Le président palestinien arrive à Prague au moment où la Tchéquie préside l'Union européenne et vient de décider d'augmenter son aide à la population palestinienne de la bande de Gaza. Le ministre de l'Intérieur, Ivan Langer, a déclaré que la première chaîne de la télévision publique, que le gouvernement pourrait encore plus encourager les étrangers licenciés en Tchéquie en raison de la crise économique mondiale à rentrer dans leur patrie. Pour l'instant, le gouvernement offre 500 euros et un billet d'avion gratuit. La première phase de cette opération concerne dans les 2000 étrangers et le coût de l'opération tourne autour des 2 millions d'euros. Au cours de la première semaine de l'entrée en vigueur de cette mesure, près de 300 ressortissants étrangers l'ont utilisé. Sur l'invitation de la chancelière allemande Angela Merkel, les représentants des plus importantes économies européennes se sont réunis à Berlin afin d'arriver à une position commune avant le sommet du G20 qui aura lieu le 2 avril. La Tchéquie était représentée par le Premier ministre Mirek Topolánek, qui en tant que président du Conseil européen avait rencontré auparavant la chancelière et le président de la Banque centrale européenne. À Prague, les représentants des banques européennes se sont mis d'accord sur un plus grand contrôle du marché financier européen. Cela devrait aussi conduire à une plus grande stabilité de ce marché. Il s'agit surtout des crédits à risque de type hedge et des informations fournies par les agences de rating. La CBA, Association des banques tchèques, présidait cette rencontre. L'année dernière, c'est la ville de Krnov qui avait remporté le titre de la ville des arbres en Tchéquie en un concours organisé sur l'amélioration de l'environnement dans les villes européennes et qui se tient sous l'égide de l'Entente Florale d'Europe. Cette année, d'autres villes tchèques, et elles sont nombreuses, aspirent non seulement à ce titre européen, mais aussi aux 2000 euros que celui-ci rapporte. En sport, au championnat du monde de ski nordique à Liberec en Bohême du Nord, tout va pour le mieux, à part les médailles pour les représentants de la République tchèque. La plus précieuse a toujours été remportée pour l'instant par le meilleur fondeur, Tomáš Bauer, au 15 km classique. Autrement, au combiné nordique, le meilleur tchèque, Huravi, se classe 21e après le saut. Pour terminer, la météo qui nous annonce toujours du froid, du gel, de la neige, bien qu'un peu moins que la semaine dernière. Attention toujours sur les routes avec de la neige, du verglas et des brouillards givrants. Bonne fête au Svatopluk, en un prénom vraiment tchèque et historique, selon le calendrier tchèque du 22 février. C'était Alain Slivinski, les informations sur Radio Prague.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Hello, are you Annie Stern from Czechoslovakia?
Bonjour, êtes-vous Annie Stern de Tchécoslovaquie?
Then I have a parcel from your mother for you.
J'ai un paquet pour vous, de la part de votre mère. New York, les années 70, Annie Stern reçoit un coup de téléphone d'un inconnu. Il lui remettra un petit carnet de feuillets jaunis, cousus ensemble, enveloppés dans du papier Kraft. À l'intérieur de ce cahier fragile, des recettes de cuisine que Mina Pechter, la mère d'Annie Stern, a rédigées avant sa mort, alors qu'elle était internée dans le camp de Térézine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Baisers de boutons de rose, gâteaux de bonne santé. la femme qui couche sur le papier les détails de la fabrication de petits plats et ses bons trucs de cuisinière, c'est une femme qui a faim. Internée dans le camp de Térézine, en 1942, Mina Pechter, tout comme ses co-détenus, rassemble ses forces pour accomplir un dernier geste d'amour vis-à-vis de sa fille, Annie, qui a quitté la Tchécoslovaquie à temps pour la Palestine. Écrire des recettes de cuisine à Térézine, le paradoxe de cette réalité est poignant. C'est aussi ce qui a touché la documentariste française Anne Georget lorsqu'elle a découvert l'histoire de Mina et d'Annie.
Quand j'ai lu ces lignes et cette juxtaposition de mots Térézine, carnet de cuisine, enfin il y a quelque chose de très choquant. Petit à petit, on réfléchit, on imagine cette femme qui était une grand-mère et on l'imagine avec discutant avec d'autres femmes de son âge, de la vie normale, de ce foyer qu'elle tenait, de ses repas de fête, de ce qu'elle aimait faire pour son petit-fils. Et petit à petit, on les imagine assises dans des conditions pas possibles, effectivement mourant de faim, parce que quand j'ai commencé à chercher un petit peu la documentation, je me suis aperçue que bon, il y avait toute une hiérarchie à Térézine, comme il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, le Conseil juif des anciens avait pris la décision consciente de favoriser plutôt les travailleurs de force et les enfants qui avaient le plus de chances de sortir de cet enfer et de donner un peu moins de nourriture aux personnes âgées qui quelque part n'avaient pas de valeur de travail, etc., etc. Donc c'était une décision terrible à prendre, mais bon voilà, ils l'ont prise en conscience et donc il y a beaucoup de littérature sur le fait que les personnes âgées étaient particulièrement démunies dans le camp de Térézine. Donc d'imaginer cette grand-mère qui mourait de faim, qui devait chercher dans les poubelles des épluchures de pommes de terre pour se nourrir et dans le même temps qui se querellait avec ses amis ou ses compagnes de dortoir pour savoir si l'une mettait de la poudre de noisette, l'autre de la poudre d'amande dans des gâteaux et comment elle faisait le strudel et comment elle faisait le goulash et comment elle faisait si c'était quelque chose de bouleversant.
En 2008, Anne Georget a réalisé un documentaire, Les recettes de Mina, qui retrace l'odyssée des carnets de Mina Pechter. En 1944, Mina sent que c'est la fin. À Térézine, elle confie alors ce recueil de recettes à un antiquaire qu'elle connaissait avant la guerre et qu'elle charge de transmettre à sa fille, sans même savoir si celui-ci survivra à l'horreur. Anne Georget.
Baxbaum a survécu à Térézine, elle pouvait pas voyager. Puis un jour, il y a un visiteur qui est passé par là, ça devait être assez rare, et il a dit, ben voilà, j'ai fait une promesse, est-ce que vous pouvez m'aider à la tenir? Est-ce que vous pouvez bien prendre ce carnet et aller en Israël et voir si vous trouvez cette fameuse Annie Stern? Grosso modo, le carnet, il a mis plus d'une vingtaine d'années à lui parvenir. En Israël, le voyageur donc qui s'était chargé du paquet a posé des questions. On lui a dit, ah mais oui, bien sûr, elle habitait à Haïfa, mais maintenant elle est partie aux États-Unis. Donc là, il est allé à New York à une réunion de juifs tchèques qui ont dit, ah mais oui, bien sûr, Annie Stern, elle habite à tel endroit. Et c'est là que effectivement, le téléphone a sonné chez Annie et qu'on lui a dit, vous êtes bien Annie Stern de Tchécoslovaquie. Pour Annie, je pense que ça a été un choc terrible, d'abord parce que elle s'était sans doute pas remise de la culpabilité d'avoir laissé Mina derrière elle au moment où elle a quitté la Tchécoslovaquie dans les tout derniers jours où c'était encore possible pour partir en Palestine. Mais Mina ne voulait pas partir. Elle disait, on n'assigne pas les vieux arbres, rien ne peut nous arriver, on n'est plus dans le coup, on fait de tort à personne, on fait d'ombre à personne. Donc Mina n'a absolument pas voulu partir. Je pense que ça, déjà, ça a été très dur pour Annie. Elle n'avait pas idée de ce qui se passait pendant qu'elle était en Palestine. Elle ne l'a appris qu'après la guerre. Donc je pense que tout ça faisait que c'était un sujet très très douloureux et tout d'un coup, sans prévenir, le téléphone qui sonne et qui vous annonce qu'il y a un paquet qui arrive, elle le dit à un moment donné, elle dit pour moi c'était une main qui sortait de la tombe, quoi. C'était vraiment difficile à affronter. Elle n'a pas pu l'ouvrir pendant très longtemps, ce paquet. Puis ensuite elle l'a caché dans sa bibliothèque, quoi, pour le protéger, pour qu'il soit là, pas loin, mais comme quelque chose vraiment d'enfoui au fond de son cœur.
Tellement enfoui qu'Annie Stern ne le ressortira que dans les années 90, quelques années avant sa mort, pour le montrer à une amie qui la poussera à le publier. C'est Bianca Braun, une autre femme originaire de Tchécoslovaquie qui avait survécu à Térézine, qui se chargera de la traduction. En 1996, un peu après la disparition d'Annie, les recettes de Mina sortent aux États-Unis. En France aussi, l'histoire des carnets ainsi qu'une sélection de ses recettes a été publiée aux éditions du Seuil par Anne Georget et sa compagne de route dans ce projet, l'illustratrice Elsie Herberstein. Dans l'ouvrage, tout comme dans le documentaire, celle-ci a prêté son coup de crayon pour la représentation des gestes de la cuisine et des recettes. Elsie Herberstein.
C'est Anne qui a pensé au dessin parce que finalement filmer ses recettes, ça lui paraissait un petit peu brut et puis inadéquat parce que c'est pas une émission de cuisine et ce sont pas des recettes qu'on peut filmer comme n'importe quelle recette qu'on peut trouver dans un livre de cuisine habituel. Et donc elle se demandait comment les évoquer autrement et elle a pensé au dessin. Et elle connaissait déjà mon travail, on se connaissait depuis quelques années, et elle m'a appelé un jour pour me raconter l'histoire de Mina, et en me disant, voilà, mon idée, ce serait que tu nous accompagnes sur le tournage, et que tu, au moment où les différents témoins du film, comme Bianca, la traductrice, ou David, ou les cousins de David en Israël, ou d'autres protagonistes du film documentaire, au moment où ils réalisent ces recettes sous nos yeux, la caméra, au lieu d'être sur la personne, est sur la feuille de papier et on voit apparaître d'abord de manière quasiment abstraite des lignes dont on ne sait pas trop ce qu'elles vont donner, des taches de couleur, et au fur et à mesure on voit tous les gestes qui composent la recette. C'est-à-dire que moi je dessinais vraiment sur le vif, très vite puisqu'il fallait que je suive les gestes qui se faisaient sous mes yeux au fur et à mesure. Et donc on voit apparaître le dessin, et le dessin crée à la fois c'est vraiment un liant, en tous les cas dans le film, et ça a cette valeur un petit peu aussi émotionnelle, ça communique cette tendresse, et puis aussi un petit peu un passage aisé entre le passé et le présent.
Elsie Herberstein a ainsi travaillé au crayon et à l'aquarelle. Et la légèreté du trait, l'aspect fluide des couleurs de l'aquarelle, plonge le spectateur ou le lecteur comme dans un livre d'images d'antan, un album suranné, comme un retour dans l'enfance. Et l'enfance, ce sont aussi des odeurs, des goûts. Les recettes de Mina, c'est une certaine saveur de l'Europe centrale, comme le concède Elsie Herberstein, qui est d'origine autrichienne.
Par exemple, quand Bianca s'est mise à faire le gâteau au pavot, moi, mes deux grands-mères viennent du région où on cultive le pavot, qui est près de la frontière tchèque, qui s'appelle le Waldviertel, et tout de suite, il y a ces saveurs qui sont remontées, et puis j'avais vraiment une proximité et une complicité très forte, que ce soit avec Bianca, ou avec David aussi, le petit-fils de Mina, quand on était à Washington, parce que on parlait de ça, et on pouvait parler de ça pendant des heures, de ces saveurs d'enfance, de ces ambiances aussi qui en Europe centrale, qui sont quand même très particulières, et ça nous rappelait tout ça, même si on n'a pas du tout le même âge. Finalement, on parlait de choses qu'on connaissait bien et qui nous rapprochaient beaucoup. C'était vraiment dans une bulle qui était quand même, c'était notre petite Madeleine à nous. C'est strudel, c'est gâteau au pavot, c'est caramel de Baden. Enfin, moi, c'est toute mon enfance aussi. Donc, c'est soupe. Moi, j'aime beaucoup quand David parle de, il dit qu'il aime tellement les soupes qu'on les sert en dernier parce que sinon, il ne mangerait que ça. Donc, moi, les soupes, c'est, à chaque fois que je vais en Autriche, on mange beaucoup plus de soupe qu'en France, et puis avec toutes ces boulettes à l'intérieur, ces bouillons, enfin, pour moi, c'est totalement relié à ma mère ou ma grand-mère.
L'histoire de Mina Pechter et de ses recettes de cuisine à travers les années bien après sa disparition, c'est donc aussi l'histoire de femmes. Annie Stern, sa fille, celle des deux femmes qui ont aidé à la publication en anglais de ce recueil, puis enfin celle d'Anne Georget et d'Elsie Herberstein. C'est l'histoire de la transmission générationnelle de certains savoirs des mères à leurs filles, du don de soi. L'histoire d'une des plus primaires et des plus douces preuves d'amour entre les êtres, la nourriture. Les mères nourrissent leurs enfants pour les faire vivre, les voir grandir, leur apporter aussi de la joie. Et Mina Pechter, au seuil d'une mort certaine, a ainsi voulu témoigner de son amour pour sa fille et aussi pour son petit-fils, David, Anne Georget.
C'était une sorte de testament, elle a écrit ce recueil de recettes pour sa fille et comme c'était quelqu'un qui était, je crois, assez cultivé, qui écrivait par ailleurs des poèmes, des lettres, etc., je pense que le fait qu'elle ait choisi de mettre un peu son dernier souffle et ses dernières forces dans la rédaction de ses recettes, moi, ce que j'en comprends, c'est que on dit beaucoup de choses de qui on est et de qui on aime en écrivant des recettes de cuisine. Ça peut sembler comme ça assez trivial au premier abord. On se dit, oh, des recettes de cuisine, c'est un peu des histoires de bonnes femmes. Au bout du compte, quand on réfléchit bien, et spécialement écrites dans les circonstances dans lesquelles Mina les a écrites, je crois que c'est quelque chose d'une grande profondeur et d'une immense sincérité. C'était à la fois la mémoire des jours heureux, des jours normaux. c'est pas quelque chose où finalement elle se complaît sur son malheur, sur sa faim, etc. C'est tourné vers la vie.
Mina Pechter avait le visage des belles grand-mères, aimantes et nourricières, enveloppantes et tendres, de celles qui accompagnent l'acte de nourrir de quelques conseils pratiques. À son petit-fils David, elle apprendra que les fameux caramels de Baden ne se mangent pas en entier et d'un coup, on en prend une moitié, on en garde l'autre moitié pour les amis ou la famille, ou le lendemain, on coupe en deux le morceau restant et on savoure longtemps. Une leçon de goût qu'on oublie parfois aujourd'hui dans la vitesse du quotidien. Le documentaire d'Anne Georget s'achève sur une scène touchante entre David Stern et son propre petit-fils. Elsie Herberstein nous raconte.
Quand on voit David, c'était la première fois qu'il lui parlait de sa grand-mère. Ça s'est improvisé comme ça parce que Anne est revenue à un moment où ce petit-fils était en visite chez eux, chez ses grands-parents qui le gardaient. Et du coup, il s'est dit, je vais lui faire goûter ses caramels et puis je vais lui raconter cette histoire. Moi, ça m'a beaucoup ému aussi le fait que cette transmission continue. Cette histoire de famille qui finalement a, au lieu de s'oublier, renaît comme ça des années après et peut finalement prendre corps chez un tout petit être à qui il va raconter un peu comme un conte.
Et la transmission va au-delà. Anne Georget et Elsie Herberstein, toutes deux, ont évidemment testé et goûté les recettes de Mina. On les écoute toutes les deux.
J'ai jeté mon dévolu sur les caramels de Baden, qui est un peu la petite ritournelle qui rythme le film, puisque c'était vraiment la recette préférée de David.
Alors j'aime beaucoup faire le gâteau au pavot. J'ai essayé les Butterkindl, qui sont des petits croissants dans lesquels il y a une farce avec des noisettes et du jus d'orange, des zestes d'orange. Je connaissais pas cette recette, donc ça j'ai innové. Sinon il y a évidemment le gâteau de bonne santé, il y a les baisers de boutons de rose que j'ai essayé aussi, que je ne connaissais pas. Et puis parce que je trouve que le mot est tellement poétique, tellement... Une des choses qui m'ont frappée aussi la première fois que j'ai lu les recettes, c'est le fait que les titres soient aussi décalés et aussi forts. Je veux dire, le gâteau du marié ou gâteau de bonne santé ou baiser de boutons de rose, c'est quand même... c'est quelque chose qui prend tout de suite au cœur, je trouve. On sait où et comment elles ont été écrites, ces recettes.
C'est ainsi que s'achève la rubrique Culture sans frontières qui était consacrée aujourd'hui à l'histoire bouleversante de Mina Pechter et de sa fille Annie. Dans cette rubrique, vous avez entendu la réalisatrice française Anne Georget qui a réalisé un documentaire intitulé Les recettes de Mina et également l'illustratrice Elsie Herberstein. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gregorova.
Cette fois-ci, nous allons nous déplacer en Bohême de l'Ouest, dans la région de Pilsen, ville connue surtout par sa production d'excellentes bières, dans le district de Rokycany, où se trouvent deux charmantes communes qui valent la peine d'être visitées, Holoubkov et Skořice. La commune de Holoubkov est située à la limite des monts Brdy et du plateau de Krivoklad, sur la route principale reliant l'est et l'ouest du pays. Au centre de la commune, il y a un joli étang, au nord se trouve le parc protégé de Radec et au sud celui de Tichon. Les prés, champs et forêts font de Holoubkov un endroit recherché par les touristes. Holoubkov surprend par un grand nombre de belles villas, dont la plus connue est la Villa Markov, projetée par le célèbre architecte Jan Kotiera. Au début des années 20 du XXe siècle, la commune, dont la fondation date probablement de la seconde moitié du XIVe siècle, est devenue la station estivale préférée des habitants de Pilsen et des Pragois. Malheureusement, l'aspect pittoresque de Holoubkov est enlaidi par des maisons en panneaux préfabriqués, construites dans les années 70 et 90 du XXe siècle. Grâce à un gisement de minerais de fer et à l'exploitation du bois, la commune Holoubkov jouit d'une longue tradition industrielle. À l'origine, il s'agissait surtout de la sidérurgie. D'ailleurs, le premier haut fourneau a été construit au XVIIe siècle. Au cours de la guerre de 30 ans, la ville a été complètement brûlée et n'a été à nouveau peuplée que 20 ans après le drame. Au XIXe siècle, le domaine est racheté par le baron allemand Henri Bettel Strausberg, qui développe la production dans les usines sidérurgiques et fait construire une usine pour fabriquer des wagons de chemin de fer. Mais le baron fait faillite et les usines sont rachetées par son associé Maximilian Hopfengartner, qui axe ses activités sur l'industrie des constructions mécaniques centrée sur la production des machines-outils. Ce type d'industrie a persisté, même après la nationalisation de l'entreprise en 1948, et continue jusqu'à nos jours. Il est à noter que le chemin de fer est arrivé à Holoubkov en 1869, faisant la liaison entre Prague, Pilsen et Brod nad Lesy. Holoubkov est le lieu de naissance de Jiří Dohnal, né le 12 août 1905, acteur renommé surtout dans les années 30 et 40 du siècle dernier et comédien au Théâtre National. Il a fait un apprentissage de serrurier et s'intéressait aux inventions techniques. Il voulait faire des études à l'école professionnelle de Pilsen et devenir constructeur. Le jeune homme rêvait de construire des raffineries de sucre et des ponts en Iran et en Afghanistan. Mais la crise de 1923 lui fit perdre son travail et mit fin à ses projets. Jiří Dohnal commence à s'intéresser au théâtre qui le passionnait déjà enfant. Il commence dans une petite compagnie de théâtre à Rokycany et débute dans son premier film à 28 ans. Son étoile monte très vite. Sur l'écran, il devient le partenaire des grandes vedettes de cinéma de l'époque telles que Lida Bárová, Zita Kabátová, Hanna Vítová ou Věra Ferbasová. C'est un acteur demandé et célèbre. Dans la moitié des années 40, il tourne toujours des films, mais ils n'ont plus autant de succès que ceux qu'il a tournés au cours de sa jeunesse. L'acteur commence peu à peu à disparaître de l'écran. Après la guerre, il abandonne définitivement la carrière d'acteur et se consacre à la réalisation, la mise en scène et la gestion. Il est à noter que Jiří Dohnal avait déjà très jeune l'étoffe d'un organisateur qu'il n'a pas utilisé dans le meilleur des termes. Dans les années 30 du XXe siècle, il était membre du Front de Gauche, du club antifasciste des artistes dramatiques tchèques et allemands, ainsi que propagateur de l'amitié avec l'Union soviétique. Après la guerre, il est devenu le cofondateur et le premier directeur du théâtre réaliste de Zdeněk Nejedlý à Prague. Dans les années 1969 à 1971, il était chef de la section dramatique au Théâtre national de Prague et haut fonctionnaire de l'Association des artistes dramatiques. Jiří Dohnal est décédé le 9 septembre 1984 à Prague. La seconde charmante commune située dans le district de Rokycany est Skořice, ce qui veut dire cannelle, fondée au XIIIe siècle. Il existe plusieurs versions concernant le nom du village, faisant penser à l'odorante épice et on ne saurait vraiment dire d'où vient son origine. Ce furent les seigneurs de Grispec qui apportèrent au XVIe siècle un grand essor au niveau de la sidérurgie, de la meunerie et de la pisciculture. De nombreux étangs existant encore de nos jours furent fondés. À cette époque, il y avait une importante exploitation de charbon de bois. Le bois était transporté deux fois par semaine à Prague dans des paniers en osier. Le bois se brûlait 9 mois dans l'année, donc les charbonniers restaient 3 mois sans travail. Pour gagner leur vie, ils voyageaient à travers le monde en jouant de la musique à différentes occasions qui se présentaient. L'extraction de la houille, commencée dans la seconde moitié du XIXe siècle, donna du travail à un grand nombre d'habitants, mais après l'épuisement des réserves dans le plus petit bassin houillé de la Bohême en 1904, des centaines de familles restèrent sans ressources. La plupart se déplaça au nord de la Bohême, dans la région de Most, et le reste se consacra à l'agriculture, qui devint le principal moyen de subsistance. D'ailleurs, en 1949, les communistes fondèrent une coopérative agricole qui fut transformée en 1999 en une société par action. Dans les années 1918 à 1938, la commune Skořice jouissait d'une importante vie culturelle et sociale organisée par l'Union de gymnastique Sokol et DTJ. Il s'agissait de bals populaires, spectacles de théâtre et de marionnettes. Détruite par les ravages de la Seconde Guerre mondiale, la commune fut reconstruite et est devenue un lieu de vacances recherché. En juillet 1999, le président actuel de la République tchèque, Václav Klaus, à l'époque président de la Chambre des députés, a remis au maire de Skořice la confirmation officielle de l'octroi des armoiries et du drapeau de la commune. La cérémonie s'est déroulée au Parlement de la République tchèque. Et puisque l'on a parlé de skojice, cannelle, la recette d'aujourd'hui sera aussi à base de cannelle. Ce seront donc des crêpes à la cannelle. Alors il vous faut 80 g de farine, un œuf, 2 tasses de lait, 1 demi-cuillerée d'huile, sel, sucre cristallisé, cannelle en poudre. Il est nécessaire de préparer la pâte 12 heures à l'avance pour qu'elle puisse s'affiner. D'abord, versez la farine dans un récipient, puis versez le lait en remuant continuellement. Lorsque la pâte est bien remuée, elle doit être effectivement bien liquide, ajoutez l'œuf et remuez encore. Puis laissez reposer la pâte et ensuite la remuez encore. Intégrez le sel, le sucre, l'huile et la cannelle. Soyez prudent avec le sucre et la cannelle. Il ne faut surtout pas exagérer. Ensuite, faire chauffer la poêle à feu doux légèrement enduite d'huile et verser la pâte à l'aide d'une louche. Bien répartir sur toute la surface de la poêle et augmenter le feu. Secouez la poêle et lorsque la crêpe se décolle, la retournez soit à l'aide d'une spatule ou en la faisant sauter en l'air. Mais il faut être bien adroit alors. Puis, la dorer de l'autre côté. Déposez les crêpes cuites sur une assiette posée sur une casserole avec de l'eau chaude. Ce genre de crêpes, appelées les palachinki, se mangent comme dessert avec de la confiture à la fraise maison. On peut les enrichir avec de la crème chantilly. C'est bon et cela remonte le moral. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos idées, remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.